Nous venger non seulement pour la mort de Alessis, mais aussi pour les milliers d'heures qu'on nous vole, les milliers de moments où l'on a senti l'humiliation, les milliers de moments où l'on a retenu notre colère. Nous venger pour nos rêves qui sont devenus publicité, pour nos luttes qui sont devenues marchandage et marchandises, pour la vie qui s'use continuellement. Nous venger pour nous-mêmes qui devenons petit à petit des ombres dans une vie quotidienne qui se répète. Décembre fut une révolte d'une minorité qui vit dans ce coin du monde. Par ses exactions, cette minorité a critiqué les rapports sociaux, le travail, la marchandise et l'État. Cette critique destructrice et créatrice à la fois était anticapitaliste et non réformiste, et elle exprimait l'envie de voir disparaître ce monde de merde. Remember the 6th of December. Depuis ce soir-là et pendant quelques jours, ce sont les actions d'une foule de jeunes surtout qui ont parlé. Flics et commissariats attaqués, banques incendiées, magasins détruits et pillés, ministères, chambres d'industrie et entreprises de location de personnel vandalisées, universités, mairies et autres bâtiments publics occupés. Les attaques contre les magasins de luxe commencèrent dès la première nuit. Le lien entre le meurtre du jeune de 15 ans et l'arrogance du capital était clairement affirmé. Les attaques contre les concessionnaires automobiles, les feux de circulation, les arrêts de bus eurent lieu régulièrement. Les attaques contre les banques, qui symbolisaient la domination de l'argent, furent acharnées. Et pendant les premiers jours de la révolte, il a été tenté systématiquement de les incendier. Il est important d'examiner comment la configuration urbaine spécifique du centre d'Athènes a contribué à la jonction de différentes parties de la population pendant la révolte, reliant en un seul bloc le quartier des révoltés permanents et celui des immigrés. Erarsia est un quartier où se passe une guerre de basse intensité, d'où ressort un conflit quasi permanent entre la police et divers éléments de la jeunesse. C'est un territoire de contre-culture, de sous-culture et de marche sociale, ainsi qu'un espace de circulation et de fermentation d'idées politiques plus ou moins radicales. Dit quartier des anarchistes, il ressemble au village gaulois à l'intérieur de la métropole marchande et sécuritaire. Historiquement, il a été l'endroit de comportements subversifs et de conflits sociaux intenses, notamment autour de l'école polytechnique, souvent occupée au cours de son histoire. Et juste de l'autre côté du boulevard Partition sont situés les quartiers des immigrés, qui constituent le lieu où se rassemblent les parties les plus pauvres du prolétariat multinational. Et sur le troisième côté, ce sont les zones de la richesse, du pouvoir et de l'État. La proximité de ces zones crée un mélange détonnant qui explosa en décembre. Pendant l'explosion, différentes réactions à la précarisation de la vie se rencontrèrent. C'est pourquoi la révolte se diffusa. Le feu se répandit et menaça de brûler une bonne partie du pays. La violence sociale de décembre montrait la direction d'un nouveau monde. Par ses attaques contre les bâtiments et les magasins, par le pillage des marchandises, par la pratique antisyndicale et par les attaques sauvages des commissariats, ces actions sont importantes parce qu'elles se placent en dehors de tout cadre revendicatif. Ni représentant, ni revendication. L'absence de revendication a permis à une forme d'organisation informelle d'exister dans la rue. Cela fut visible dans la simplicité sauvage des banderoles qui disaient simplement « assassin ». Il n'y eut pas d'appel officiel aux protestations. Les émeutiers organisaient leur action dans l'immédiateté et dans le désir mutuel. Ce sont des groupes d'agitateurs incontrôlables par les partis. Ce sont les émeutiers en cagoule. Ces groupes d'amis ne prennent pas la responsabilité de leurs actions parce qu'ils ne veulent pas en tirer un profit politique. Leur présence imprévisible est leur force principale dans un événement d'où ils disparaissent aussitôt. L'importance de ces groupes en tant que forme d'organisation a empêché l'État de trouver une représentation des révoltés et surtout, il n'a pas pu en fabriquer une. Ni représentant, ni revendication. Dans tout mouvement revendicatif, il existe par définition une organisation qui exprime ses limites. Par exemple, un syndicat qui organise une grève assume en fin de compte le rôle de garantir la reprise du travail. De même, un parti qui organise une protestation a le rôle de définir le moment de la victoire ou de la défaite, c'est-à-dire le moment de la fin du combat. Dans le cas de décembre, il y a eu des récupérateurs de toutes sortes, qui soient condamnés en bloc la révolte ou seulement la soi-disant violence aveugle. Pourtant, la tentative a échoué, car les médiateurs faisaient face à des révoltés qui avaient compris qu'ils n'avaient rien à attendre du capitalisme. Pendant la révolte de décembre, les insurgés s'approprièrent ce qui devenait accessible dans le chaos que les émeutes créaient. Les pillages constituent le plus grand scandale de décembre. Les journalistes et les médiateurs politiques de tous bords ont pu, dans un premier temps, supporter, voire justifier, les attaques contre la police et les vandalismes, mais jamais l'attaque contre la propriété privée. Et pourtant, quoi de plus naturel que l'expropriation directe quand le spectacle distribue à gogo des promesses de bonheur consumériste au moment même où l'on nous en prive. Le rôle principal dans les pillages de décembre a été tenu par des immigrés, des précaires, des élèves, des étudiants, mais également par des prolétaires grecs d'un âge plus avancé, qui ont su profiter de la faiblesse de l'État à protéger son capital. Bien entendu, l'État a tenté de distinguer les révoltés grecs des pilleurs étrangers, comme pour le bon manifestant et le méchant casseur. Les pillages ont commencé à Athènes juste après le coup de feu assassin, le premier soir de la révolte, et à Thessalonique le lendemain. Dans certains cas, c'était des dizaines de personnes qui apparaissaient brusquement, venues de nulle part, pour vider les magasins. Dans d'autres cas, il y eut des pillages derrière les barricades, dans des quartiers qui étaient provisoirement libérés de la police durant les affrontements. À certaines occasions, il y a eu des attaques de distributeurs automatiques de billets visant la monnaie sonnante et trébuchante, mais sans succès. D'autres ont saisi l'occasion pour organiser des attaques contre des joailleries et autres commerces de luxe. Souvent après le pillage, les révoltés détruisaient les magasins et les marchandises qu'ils n'avaient pu emporter, déclarant ainsi que bien qu'aujourd'hui ils utilisaient les marchandises, ils ne souhaitaient pas que les magasins existent demain. Mais le pillage est aussi une pratique contradictoire, et les dégâts réellement causés au rapport marchand restent partiels. Le rapport marchand survit finalement dans la possession personnelle ou dans la revente des butins. Les marchandises appropriées deviennent non des choses utiles pour tous, mais des valeurs d'usage pour chacun. Mais on n'oubliera pas que certains participants, au lieu de se réserver les marchandises, les jeter dans le feu, soulignant ainsi la valeur d'usage qu'elle devrait avoir en ce moment précis. Nous ne savons pas exactement tout ce qui s'est passé et nous pouvons facilement penser que certains jours de congé furent fêtés, n'ayant plus besoin temporairement d'aller bosser et d'imaginer de grandes fêtes avec de la nourriture et les boissons volées, consommées en quantité durant des rassemblements nocturnes colorés et bruyants. Mais ces fêtes sont incomplètes, elles sont le retour à la normale. La pratique du pillage ne sera réellement libératrice que lorsqu'elle atteindra sa destination finale, la réappropriation de notre avenir volé. L'abolition de la valeur commencera nécessairement par la destruction des choses. Et quand cette destruction sera généralisée, alors apparaîtra le besoin de l'affrontement avec le capital, jusqu'au point qui rendra impossible tout retour en arrière. La pratique des jeunes scolarisés pendant la révolte montre toute la difficulté du système capitaliste à perdurer et se reproduire. Les futurs travailleurs chômeurs, sachant qu'ils seront les précaires de l'avenir, refusent leur rôle de lycéens ou d'étudiants dans le présent. Pendant les premiers jours de la révolte, les jeunes scolarisés parcouraient en groupe les villes, cherchant vraiment la police. Et quand ils la rencontraient, ils attaquaient jusqu'à l'épuisement. Ils se tenaient avec audace à très courte distance des flics, risquant l'arrestation et le passage à tabac. Et ils étaient vraiment incontrôlables. Et leur absence de revendication s'est exprimée par un élan destructeur contre les commissariats. Les actes de révolte simultanée des précarisés grecs et des immigrés marquent le dépassement des divisions ethniques, raciales et religieuses. La première génération d'immigrés des Balkans n'a pas pris vraiment part à la révolte. Par contre, leurs enfants, qui ont commencé leur vie dans ce pays, ont des attentes plus grandes et ils voient qu'elles ne peuvent pas être satisfaites, ce qui constitue pour cette génération une raison de se révolter. Ces jeunes immigrés vont à l'école et malgré le fait qu'ils ne soient pas séparés du reste des élèves, vivent le racisme et la dépréciation au quotidien. Et ils savent qu'ils sont les premiers à faire face à une échelle sociale bloquée. Aux émeutes d'Athènes ont également participé les immigrés récents et misérables qui vivent dans les quartiers ghettos du centre-ville, les surnuméraires exclus, afghans, pakistanais et africains. Ces prolétaires ont participé au combat du centre-ville aux alentours de leur quartier pendant les premiers jours des émeutes de décembre et ils ont pillé plusieurs magasins quand l'occasion se présentait. Ils ont aussi attaqué le commissariat d'Omonia, connu pour les nombreux cas de brutalité contre les immigrés. alors il restera de décembre et de la violence sociale, le dépassement des différences, des divisions et des luttes.
L'insurrection se lèvera alors devant nous.